TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femme. Nous poursuivons notre semaine sur les jeunes couples et nous sommes avec notre invitée Nifa. Bonjour Nifa, tu vas bien?
Bonjour Annabelle, ça va très bien.
Bonjour Nifa.
Regardez comment Nifa est magnifique.
Oui. Oh, aujourd'hui, c'est de la tête aux pieds. Hein.
Ouais, on le souligne quand même. Vraiment, tu es magnifique. Princesse Nifa. Princesse Nifa. Princesse Mathilde, ça va?
Oui, ça va très bien, merci.
Non, c'est Reine Mathilde.
C'est Reine Mathilde. Okay. Oui. Oh, wow. Ouais, ça, ce n'est pas pareil. Oh. C'est à cause de l'âge que tu dis ça.
Je vois les problèmes.
Moi non plus, mais tu en as. En tout cas, merci à toi, Nifa, d'être avec nous pour toute cette semaine. On parle des défis du jeune couple parce qu'on croit que Dieu a un bon plan et des conseils à partager aux jeunes couples. Mmh. C'est un moment un peu décisif dans la vie et quelquefois, on part un peu du mauvais pied et quelquefois, quand ces choses sont pas réglées, des choses qui pouvaient être anodines sont pas réglées et puis on se retrouve 20 ans plus tard avec ces problèmes qui ont pris vraiment des proportions énormes et en fait, on en revient juste à la base, la première dispute, les premières incompréhensions qui ont jamais été réglées. Et je crois vraiment que Dieu veut parler aux jeunes couples pour réinstaurer la paix et aussi pour renouveler l'intelligence, qu'il y a des choses qui peuvent être faites et des bonnes choses pour que ce soit une saison en fait où on va porter du fruit, une saison dans laquelle on va aussi pouvoir prospérer, parce qu'on entend souvent dire ah oui, on entre dans le mariage, fini la liberté, la corde au cou, etc. Quelquefois c'est caricatural, mais quelquefois il y en a vraiment, c'est pour eux le jour où ils se sont mariés, ça a été un peu la fin d'une vie, mais c'est, comme tu l'as dit Mathilde dans la semaine, c'est le début d'une autre aventure et on croit que Dieu a des choses à partager à travers toi, notamment Nifa. Et puis, on va parler aujourd'hui des enfants. Comment gérer l'arrivée des enfants? Et ça fait 4 ans que vous êtes mariée avec Joey et vous avez déjà eu 2 enfants. Je dis déjà parce que pour moi, ça fait 16 ans et
c'est arrêté à 1.
Vous nous avez déjà dépassé. Donc, vous avez eu 2 enfants assez, assez rapidement après le début du mariage, finalement. Et donc, j'imagine que ça a été... ça a changé votre vie et vous avez dû encore une fois vous réajuster, trouver un nouvel équilibre. Donc tu vas pouvoir nous en parler aujourd'hui dans Parole de femme. Comment est-ce que vous avez fait pour bien gérer l'arrivée de ces 2 petits enfants? Tu peux nous dire peut-être quel âge ils ont aujourd'hui?
Oui, alors ma première Emily Jane, elle a 3 ans aujourd'hui et mon deuxième Joey Kennedy, il a
c'est un nom présidentiel.
Un nom présidentiel. Il a 10 mois. Oh. Voilà, donc ça fait pas longtemps.
C'est super.
Exactement, merci. Et oui, effectivement, l'arrivée des enfants, ça vient, je dirais pas déstabiliser le couple, mais vraiment, ça amène beaucoup de changements. Mm. Ça amène beaucoup de changements. Et nous, personnellement, dès qu'on s'est mariés, on avait déjà à cœur d'avoir des enfants. Donc, on n'a pas nécessairement eu de moments d'attente. Et même une fois que j'ai accouché la première, on était déjà prêts pour le deuxième. Vraiment, on s'est jamais dit oh non, on va attendre ou quoi que ce soit. Pour nous, c'est go, go, go et jusqu'à temps que cet esprit nous dise. Voilà. Mais malgré le désir qu'on avait d'avoir des enfants, lorsque ma fille est arrivée, vraiment, ça a créé un petit bouleversement, si Merci. Je peux dire ça comme ça. Parce que déjà, personnellement, en tant que femme, je suis très, très active. Quand je dis active, c'est vraiment au niveau professionnel. Je suis vraiment axée sur ma carrière, si je peux dire ça, et vraiment sur ce que le Seigneur m'appelle à faire. Et je suis très passionnée par tout ce que je fais. Donc, avant d'avoir ma fille, je maquillais beaucoup.
Tous les week-ends, toi, tu étais
presque tous les week-ends, c'est ça. Je maquillais les mariés, je maquillais à gauche, à droite. J'avais toujours tout plein de contrats. Et mon mari aussi, il était dans l'événementiel parce qu'il est, animateur d'événements. Mm. Donc, MC, comme on dit dans certaines place. Et donc, les week-ends, on était toujours très, très occupés. Sans parler du fait qu'on servait dans nos églises, comme on l'a dit hier dans l'émission précédente, on est très actifs à l'église. Donc, vraiment, on a toujours été super, super occupés. Et mis à part le maquillage, comme vous savez, je fais aussi des conférences. Donc, vraiment, mon horaire est assez chargé. Mm-hmm. Maintenant, quand ma fille est arrivée, bien que je la désirais de tout mon cœur, j'ai été contrainte à ralentir un peu dans mes activités professionnelles et ministérielles.
Ça t'a surprise que tu aies dû faire cet ajustement?
Peut-être
que... Tu croyais que tout allait se concilier un petit peu automatiquement et naturellement?
Oui, voilà. En fait, j'ai pas pris le temps d'y penser plus que ça. Je savais que j'allais certainement m'ajuster, mais peut-être pas à ce niveau-là. Parce que je veux dire, il y a eu des moments où elle faisait passer nuit, il y a eu des moments où, surtout avec les coliques, je me rappelle, elle pleurait beaucoup, donc c'était rendu difficile. Et quand elle était bébé, évidemment, on n'allait pas directement l'abandonner dans une garderie, donc il fallait que je sois très présente. Et peut-être que je me disais, bah, vous savez, quand elle va siester, eh bien là, je vais pouvoir continuer à travailler, mais les siestes duraient...
Ah ouais, ouais, elle va siester.
ça durait pas aussi longtemps. Des fois, après à peine 20 minutes, elle se réveillait, puis j'étais en plein coaching avec une cliente qui pleurait parce qu'elle avait des problèmes au niveau de sa vie émotionnelle. Donc, il y a la cliente qui pleure, il y a ma fille qui pleure, et là, ça pleure partout, là, je sais plus quoi faire.
Toi donc, aussi, j'ai... du coup, tu fais ça pleurer.
Je me mets à pleurer.
C'est non, la solution.
Mais... Voilà. Donc, définitivement, ça a été ouf. OK, il y a des choses que je faisais que j'ai dû vraiment mettre de côté le temps que ma fille puisse grandir et être un peu plus indépendante et aussi, justement, rentrer à la garderie. Donc, oui, sur le coup, c'était, je vous avoue, un peu frustrant.
C'est un ça, peu frustrant. C'était frustrant. T'as eu comme une petite, un petit déchirement de devoir délaisser un petit peu cette partie-là.
Absolument. Je veux dire, quand on a déjà une certaine routine et qu'on est très passionné par ce qu'on fait, c'est un petit peu déchirant de faire comme bon, ben, je dois arrêter. Par exemple, une cliente pouvait m'écrire, écoute, Nifa, j'aimerais faire du coaching privé avec toi et tout. Puis, j'étais obligée de lui dire, écoute, c'est pas possible parce que mon emploi du temps ne me permet pas de le faire. Mm-hmm. Parce que maintenant, je veux pas m'engager avec toi à 14 heures, je vais t'appeler. Puis, c'est au même moment ma fille décide de se réveiller et finalement ça devenait beaucoup trop compliqué et je me suis dit vaut mieux mettre une pause là-dessus, me concentrer sur d'autres choses que je suis capable de faire de manière plus flexible et je reviendrai à cela quand ma fille serait éventuellement à la garderie. Même chose pour le maquillage, je me déplaçais chez mes clientes pour aller maquiller, des fois je pouvais conduire 2-3 heures de route pour aller faire un contrat et tout, mais maintenant avec ma fille j'ai dû abandonner tout ça pendant un petit moment le temps, encore une fois, qu'elle puisse grandir. Donc, ça peut amener une certaine frustration et c'est normal parce que on aime ce qu'on fait. Donc, c'est pas comme si j'avais un travail dans le monde séculier que je faisais juste pour avoir un revenu, mais que j'ai pas tant d'attachement à ça. Je veux dire, souvent, même quand on est dans cette position-là, on a hâte au congé maternité. C'est enfin, je vais arrêter. Mais quand on est entrepreneur ou dans le ministère comme moi, c'est pas nécessairement la même réalité. Donc, on peut avoir une certaine frustration de, oh, je peux plus faire telle chose qui me passionne tant parce que je dois me concentrer sur ma vie de maman. Et c'est ça. Donc, il y a ce petit déchirement-là, mais c'est sûr qu'à la fin de la journée, comme j'ai dit, j'ai tellement désiré ma fille, j'ai tellement désiré mon fils qu'au final, c'est une grande joie. J'ai une grande joie. J'ai appris à embrasser cette saison. Voilà.
Mais c'est ça, tu le dis très bien, c'est une saison. Donc, on sait que cette saison-là aura une fin et que tu pourras reprendre les activités qui te passionnent. Et je pense aussi quand tu vas terminer, ben, quand tes enfants vont être en mesure d'être plus autonomes, ben, Dieu va toujours avoir des nouveaux projets pour toi. Donc, vraiment, je pense qu'il faut juste embrasser chaque saison. Exactement. Et avoir des enfants, c'est tellement un privilège. Oui. C'est un privilège de pouvoir les voir grandir, de pouvoir déposer en eux ce que le Saint-Esprit a déposé en nous. C'est comme un transfert qu'on fait. C'est une saison de transfert. Donc, il faut voir ça. Au lieu de transférer dans la vie des femmes, tu transfères dans la vie de tes enfants. Et donc, c'est toute notre perspective, je pense, aussi, hein, qui fait qu'on est frustré ou qu'on l'est pas. Ouais. Je pense que si on est consciente de la saison dans laquelle on est et que c'est un privilège de faire des transferts de gloire dans la vie de nos enfants, ben parce que moi, c'est comme ça, je le vois. Hein, ben, parce qu'on pourrait juste dire, ben c'est contraignant. On pourrait juste voir avoir des enfants, ça chamboule tout mon couple, ça chamboule ma vie, ça chamboule mes objectifs de vie professionnelle. Mais en même temps, ben, les enfants sont là et la parole de Dieu dit qu'ils sont une bénédiction. Donc, faut trouver vraiment aussi, demander à Dieu, ben, si je vois pas la bénédiction, c'est quelles sont les bénédictions. Mais c'est vraiment un privilège de pouvoir dire, ben, j'élève des hommes et des femmes de Dieu, vraiment. parce que nos enfants seront disciples de l'Éternel. Et vraiment, on a une mission de déclarer la parole de Dieu. On a une mission de prophétiser sur leur vie. Mm-hmm. Et parce que, à cause de notre investissement aussi, mm-hmm. ben, leur destinée va être impactée par ce qu'on va avoir déposé en eux.
Amen. Et c'est vraiment ce qui m'a aidée, en fait, à pouvoir surmonter ce petit moment de frustration. C'est que je me suis rendu compte, en fait, j'ai changé ma perspective. J'ai compris qu'en réalité, c'est une grâce pour moi d'avoir mm-hmm. des enfants. Je mm-hmm. connais tellement de personnes autour de moi qui veulent avoir des enfants, mais ouais. c'est pas encore arrivé et on croit à la promesse avec mmh. eux, mais mmh. ils sont là dans l'attente et tout. Et moi, après seulement quelques mois de mariage, je suis tombée enceinte. J'ai eu un très bel accouchement, des enfants en santé. Et je peux pas voir ça comme un fardeau ou quoi mmh. que ce soit. C'est une grâce, premièrement. C'est un privilège que le Seigneur m'a fait de m'accorder ces enfants-là. Donc, c'est d'être capable de changer la perspective, de voir les choses différemment, de comprendre que le Seigneur m'a fait un cadeau et je dois le chérir. Et peut-être même cette frustration que je ressens, c'est en fait l'ennemi qui essaie de faire en sorte que je réalise pas à quel point je suis en train de marcher dans la grâce. Mmh. Donc, j'ai dû me dire, non, Seigneur, tu m'as accordé la grâce d'avoir des enfants. Si tu juges que je dois être maman maintenant, c'est probablement parce que je suis dans une saison où mes activités professionnelles vont ralentir un peu. Et le temps, en fait, que j'investis dans ma vie de maman, étonnamment, en fait, ça m'aide à grandir même dans mon rôle d'épouse et ça enrichit aussi mes enseignements, ce que j'enseigne aux femmes autour de moi. Depuis que je suis maman, ma perspective des choses a tellement changé. On voit les choses différemment et donc, c'est là qu'on voit vraiment que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit.
C'est ça, ça enrichit, ça n'enlève rien.
Exactement.
Même si ça enlève un petit peu de temps de sommeil, peut-être. Voilà. Mais ça n'enlève rien à la prospérité générale qu'on peut vivre dans notre vie, dans notre intimité avec Dieu, mais aussi dans notre couple. Parce qu'on... Avoir des enfants, ça change la dynamique du couple. Et là, on était un, après on est deux, on commence à trouver nos marques. Ah, et là, on est trois. Et on se découvre nous-mêmes en tant que maman, puis on va découvrir notre mari en tant que papa. Quelquefois, il y a des bonnes surprises, mais quelquefois, encore une fois, il peut y avoir des surprises tout court. On pensait pas que ça allait se passer comme ça. On a peut-être du mal à gérer la fatigue. Et puis on sait que quand on est fatigué, il y a beaucoup de personnes, en tout cas quand elles sont fatiguées, elles sont un peu moins patientes. Elles sont peut-être un peu plus rapides à s'énerver. Et on connaît plusieurs jeunes couples. C'est difficile en fait de passer le cap du premier enfant parce que ça a généré tellement de fatigue. C'est pas que l'enfant n'était pas désiré. C'est pas qu'on voulait pas l'enfant. C'est pas qu'on n'aime pas notre enfant, c'est juste qu'on est fatigué quelquefois et ça peut juste générer des tensions un petit peu perpétuelles qu'on va retrouver tous les jours et puis ça va s'accentuer un petit peu tous les jours. Et comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas rester dans cette situation en fait?
Ben, je crois qu'il faut aussi comprendre que lorsqu'on a un enfant, c'est une nouvelle période d'adaptation par laquelle on va passer. Un peu comme on disait, lorsque tu viens de te marier, ben, vous allez passer par cette période d'adaptation, vous allez vous découvrir en tant que mari, en tant que femme, vous allez voir vos différences et vous allez faire en sorte que ça puisse être en votre avantage. Eh bien, c'est la même chose lorsqu'on a un enfant. On se redécouvre, mais cette fois-ci en tant que parent. Et vraiment, moi, je l'ai vécu, je pense que mon mari envers moi aussi, j'ai découvert de nouvelles facettes de lui en tant que père. Je le connaissais à l'époque peut-être comme mon copain et après comme mon mari, mais là en tant que père, c'était vraiment nouveau pour moi. Et j'ai dû apprendre à m'adapter. Il a ce côté, certaines personnes vont nous voir puis vont dire, ah, c'est sûr que c'est toi Nifa qui est peut-être plus strict et Joey qui est plus, tellement qu'il est cool, c'est lui qui doit être plus laissé aller, mais c'est totalement le contraire. Joey est tellement strict.
Ah oui?
Oh oui. Et c'est moi la maman plus cool qui va blaguer avec les enfants et tout et vraiment apporter un peu plus de douceur, si je peux dire. Mais vraiment, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'encore une fois, on est différents et ça vient créer un équilibre. Donc, pour aller dans le sens, dans ce que tu disais, Annabelle, c'est vrai que dans cette période d'adaptation-là, on réalise aussi qu'on a des moments où on est beaucoup plus fatigué qu'à l'habitude. Et ça peut faire en sorte qu'effectivement, on perd un peu de patience. Donc, nous, on a dû apprendre justement à pouvoir se laisser la chance aussi de grandir dans ce rôle de parent, se laisser la chance de s'adapter. C'est vrai que par moments, je peux être extrêmement fatiguée. Et il y a quelque chose qu'on a dit, je pense, durant le premier épisode, c'est qu'on est une équipe. on est une équipe, donc on a fait l'enfant ensemble, on va l'élever ensemble. Si je suis fatiguée, tu prends le relais et vice-versa. Donc, c'est pas parce que c'est moi qui ai accouché que c'est moi qui va nécessairement tout faire. Donc, on sait comment se départager les tâches. Pas nécessairement dans le sens d'être tout le temps 50-50.
Ça a été inné ou vous avez dû en discuter?
À certains moments, on a dû en discuter parce que il y a des choses, par exemple, que naturellement, peut-être que mon mari va penser comme, mais tu sais, elle va s'en occuper. Et moi, pour moi, c'est comme, OK, c'est vrai que je peux m'en occuper, mais je suis tellement fatiguée, est-ce qu'il ne pourrait pas m'aider? Mm-hmm. Et il y a quelque chose que j'ai appris durant cette période, c'est à verbaliser mes attentes, mm-hmm. verbaliser mes demandes. Je peux pas juste m'imaginer que, oh, il va savoir que je suis tellement fatiguée que j'ai pas l'énergie pour faire telle et telle chose. Mm-hmm. Donc, j'ai appris à lui dire que, écoute, chérie, je me sens vraiment fatiguée, est-ce que c'est toi qui peux mettre les enfants au lit? En passant, c'est mon mari qui met toujours les enfants au lit. Donc,
parce qu'il est plus strict.
Il s'endorme plus vite. Donc, vraiment, c'est lui qui fait les laits et qui berce les enfants jusqu'à temps qu'ils s'endorment. Ça, c'est vraiment son truc. Mais au début, c'était moi. Parce que naturellement, peut-être qu'il se disait, bah, tu sais, c'est la maman, c'est elle qui va bercer et tout. Mais ça donne qu'à la fin de la journée, je suis tellement brûlée que je lui dis, chérie, je t'attends dans la chambre, donc fais dormir les enfants. Et vraiment, il l'a bien pris. Il l'a bien pris et aujourd'hui, il le fait et tout. Et je suis contente de lui avoir verbalisé mon désir qu'il s'en occupe à la fin de la journée parce que moi, je suis fatiguée.
Mais quand tu dis ça... Bon, j'ai pas de bébé. Hein. Quand tu dis ça m'interpelle parce que Dans certains contextes, ça va trop. On se dit, ça va de soi que voilà, la femme doit tout faire, elle doit tout porter et elle doit tout gérer concernant les enfants principalement. Et aussi du côté des femmes qui savent que ok, ben moi j'ai pas. On a fait l'enfant à deux, comme tu disais. Parfois, ça devient plus une revendication que ben je suis pas. C'est pas à moi de gérer toute seule. C'est pas à moi de faire ci. Et de l'autre côté, mais c'est évident, tu es la maman, etc. Donc, quand tu parles de revendication, moi de verbaliser plutôt ce que tu penses. Mais là, c'est vraiment interpellant parce qu'il faut pouvoir s'asseoir vraiment et communiquer. Et même avant que le bébé n'arrive, hein, il faut pouvoir se dire des choses comme, ben, OK, c'est une nouvelle saison dans laquelle on va rentrer. Ben, comment toi, tu vois cette saison? Voilà. Et comment l'autre aussi voit cette saison-là? Moi, je pense que ça ferait une différence. Je le dis de ce que j'ai déjà pu voir. Hein. Ça ferait une différence dans certains couples que juste pouvoir mettre des mots sur les attentes des uns des autres dans cette saison de leur vie, en fait.
Exactement.
Et vraiment, peut-être que la culture peut jouer aussi un rôle parce que la manière dont on a été éduqué, les modèles familiaux qu'on a pu avoir sans forcément être mal intentionné. Mais tu le disais, Nadine, dans la semaine, quelquefois, on peut. C'est toi qui as dit ça ou tu l'as pas dit?
Tu n'as pas encore dit ce que tu vas dire.
Ah, bah. Si on était vraiment amis, tu saurais ce que je veux dire. qu'on reproduisait même quelquefois de façon inconsciente les schémas qu'on a eus autour de nous. Et quelquefois, je pense que pour la grossesse et avoir des enfants, c'est un peu pareil. C'est tellement l'inconnu, en fait, que bah, peut-être tu, dans ta tête, c'est comme bah, forcément, ça va fonctionner comme chez moi. Donc, si chez moi, mon père participait aux tâches et qu'il s'occupait des enfants, c'est évident que toi, tu vas le faire. Mais peut-être que lui, il a jamais rien fait chez lui. Et c'est aussi de voir comment, en tant que femme, comment ton mari se comporte quand il est chez ses parents. Est-ce qu'il se lève? Est-ce qu'il débarrasse? Est-ce qu'avant même qu'il ait dit un mot, sa maman lui a déjà tout donné? Ah, toi, tu veux ci, tu veux ça? Tu dis, bah, peut-être qu'il a une certaine éducation ou on l'a beaucoup servi. Et je crois que, bah, il faut prendre le contexte culturel. Et notamment si on est de deux cultures vraiment différentes, de se dire bah tu sais, j'aime ta culture, j'aime ce qu'il y a dans ta culture, mais il va falloir qu'on se mette juste d'accord pour pas que au moment où l'enfant va arriver qu'il y a un clash, en fait.
Ouais, exactement.
Bah, des fois c'est pas nécessairement juste au niveau de la culture, t'as tout à fait raison, mais des fois c'est juste qu'on vient de deux familles qui ont des dynamiques différentes. Dans notre cas, nos familles étaient vraiment différentes. À la fondation, deux bonnes familles, mais qui fonctionnaient pas de la même manière. Mm-hmm. Ça fait que, ben moi, je me souviens que j'ai expérimenté quand mes filles étaient petites des moments de frustration où je me disais, ben il va deviner, il devrait savoir, et je verbalisais pas mes attentes. Et donc, je verbalisais mes frustrations.
C'est ça qui arrive.
Mais j'ai appris que...
De façon sarcastique?
Non, mais vraiment, pour vrai. Non, mais je verbalisais mes frustrations, bien sûr. Non, mais en vrai.
Non, mais parce que quelque fois, quand tu verbalises de façon sarcastique, c'est pris au premier degré.
Oui.
Ah, tu voulais pas que je me lave?
Oui. Okay. C'est pire. Ah, je pense que je l'ai fait de toutes sortes de manières. Je voulais juste que le message passe. Mais au bout du compte, j'ai réalisé que, ben, on se comprenait pas si je parlais pas.
Voilà.
Il pouvait pas deviner. Puis souvent, on pense, on se marie. La première émission, l'émission de lundi, on a parlé des conflits. Mm-hmm. Et ben des fois, ça vient du fait qu'on pense que l'autre connaît nos attentes sans qu'on les verbalise.
Voilà.
Et bien, cette dimension dans le couple devient encore plus importante quand on a des enfants, parce que vraiment, c'est ça. Il y a des moments de fatigue. Et plus on est fatigué, la frustration, on peut être irritable. Juste une petite étincelle, ça allume un feu ardent, incroyablement gigantesque.
Ouais.
Mais finalement, c'était rien. Mais c'est juste parce qu'on était trop épuisés.
Ouais.
Donc, je pense vraiment que c'est important de verbaliser nos attentes. Et même peut-être avant d'avoir des enfants, de discuter comment on voit l'éducation des enfants, la répartition des tâches, si on vient des milieux ou des cultures différentes. Je pense que c'était important de s'entendre là-dessus, que les deux on dise nos attentes, parce que souvent c'est ça, nos frustrations viennent des attentes non rencontrées.
Exactement. Moi, Jérémy m'avait dit je changerai pas de couche. Il l'a
c'est
fait.
Clair.
Donc c'était une bonne surprise.
Ben, c'est... Voilà.
Moi, j'aimerais rajouter que alors qu'on parle de différence de culture, je crois que peu importe qu'on soit de culture différente ou de dynamique familiale différente, c'est que ce que la culture qui doit prédominer, c'est la culture du royaume.
Amen.
Et la culture du royaume,
Amen.
C'est l'entraide, c'est l'amour, c'est le partage, Amen. C'est toutes ces choses-là.
Voilà.
Et donc, de savoir que d'abord, l'arrivée d'un enfant va tout changer. Et puis des fois, on minimise l'arrivée d'un enfant parce qu'on est allé chez une amie, puis on a vu son bébé qui dormait. On ne comprend pas que
non, mais c'est vrai.
Ah, ça, c'est à tous les 3 heures. D'abord, le temps que tu le donnes, le biberon, le sein, le temps qu'il digère et le temps qu'il se réveille, ça passe très, très rapidement.
C'est
et c'est pas vrai que pendant qu'il dort, tu auras le temps de faire tout le ménage.
Non,
non, non, non, le temps passe très vite.
Ouais.
Et d'abord, de savoir qu'il y aura des attentes, de se préparer. Moi, je me rappelle, avant qu'on ait notre première fille, j'avais acheté le livre là qui dit What to expect, what not to expect, when you're expecting.
Okay.
Un gros livre comme ça qui te parlait de tout ce que tu dois attendre quand tu vas avoir un enfant. Et c'est vrai qu'on ne te fie pas juste à ce que ta mère, ta sœur te dit, renseigne-toi. Et ça, c'est dans tous les domaines, hein, même au niveau de ton corps, de ce qui va changer, de l'attention. Tu sais, ça disait dans le livre que des fois, l'homme va se sentir comme s'il est relayé au deuxième degré parce que ton attention est tellement portée sur ton bébé.
Mm-hmm.
Je me rappelle l'avoir dit à mon mari, il dit, ben non, je peux pas être jaloux d'un bébé. J'ai dit, mais c'est écrit dans le livre, à la page 203. Mais au moins, c'est qu'on était déjà préparés, tu vois, à toutes ces éventualités-là. Et puis après, maintenant, une fois dans le quotidien, oui, de gérer vos attentes et de verbaliser. Je crois qu'en tant que femme, des fois, on veut tellement tout porter. C'est même pas que l'autre veut pas aider, mais on se dit que si on arrive à tout faire, c'est qu'on est vraiment, tu vois, on est vraiment
des bonnes femmes,
tu vois.
Mm-hmm.
Mais de savoir que non, c'est votre bébé à vous deux. Et c'est vrai qu'il y a des choses que tu vas faire au début, comme par exemple de faire le dodo ou le bain ou peu importe, que tu le fais parce que c'est ton rôle. Mais après, tu te rends compte que l'autre le fait mieux et ça t'enlève rien.
Voilà.
Et lui aussi, ben, ça l'a rajouté à quelque chose.
Mm-hmm.
Et de dire, ben, la dynamique que nous, on veut créer, c'est la dynamique qui va fonctionner pour nous.
Mm-hmm.
Donc la dynamique de nos parents, c'est la dynamique de nos parents. Gloire à Dieu, ça marchait pour eux.
Voilà.
Mais nous, on doit découvrir notre propre dynamique.
Mm-hmm.
Parce qu'on n'est pas nos parents.
C'est
et ça, c'est important de juste avoir cette disposition-là, de ne pas être gêné de demander, de ne pas être gêné d'en parler, de ne pas être gêné de chercher à trouver votre dynamique à vous. Parce qu'à la fin de la journée, il faut que vous puissiez perdurer après la venue du bébé pour pas que ça vous a tellement frustré que vous ramassez des blessures qui vont vous accompagner plus tard, en fait.
Mm-hmm. Ouais, et j'aimerais rajouter à ce qu'elle dit, en fait, sur le point de... parfois, en tant que femme, effectivement, on a l'impression que plus on en fait, et plus ça veut dire qu'on est des bonnes femmes. Mais parfois, c'est vraiment, encore une fois, un mensonge de l'ennemi pour nous faire, en fait... finalement détester notre bénédiction parce que au final notre enfant au lieu d'être une bénédiction pour nous l'enfant nous fatigue plus qu'autre chose et quand je lis le livre du de la le proverbe 31 en fait quand je lis le passage du proverbe 31 sur la femme vertueuse j'aime quand ça dit que elle donne des ordres à ses servantes
nous aussi
amen, amen.
C'est bien.
Donc, même elle, dans tout ce qu'elle faisait, elle avait des servantes. Il y a des personnes à qui l'aidaient, en fait, dans ses nombreuses tâches. Donc, peut-être que t'as pas de servante, mais peut-être que pour toi, c'est ton mari qui va t'épauler, qui va t'aider, etc. Ou peut-être, effectivement...
Sortez pas cette phrase de ce contexte.
Oui, parce que la femme vertueuse, elle faisait des ceintures, elle filait la laine, elle faisait des vêtements chauds, elle faisait plein de choses, cuisine.
Voilà.
Bah, elle dort pas, en gros.
Exactement, elle dormait à peine. Oui,
c'est ça, de savoir déléguer. Ouais,
de savoir déléguer.
L'arrivée de l'enfant est arrivée, vous vous rendez compte, c'est vrai, je suis tout le temps fatiguée. Mais toi, t'as peut-être une sœur.
Voilà.
Une maman à l'église qui dit,
exactement.
Moi, je peux venir chez toi garder 2 heures. Mm-hmm. Ben, ces 2 heures-là te permettent à toi de dormir, d'aller prendre une marche, de prendre du temps avec ton mari. Mm-hmm. C'est, en fait, c'est ça, de savoir avoir de l'aide, en fait, de pas avoir peur de demander de l'aide. Pour pouvoir passer et vraiment prendre... enjoy, vraiment profiter de cette période de l'arrivée de l'enfant.
Et puis de laisser aussi le père s'impliquer, parce que comme on dit quelquefois, on pense que on l'a tellement le truc de la maternité, c'est la mère, tu connectes tellement avec ton bébé.
C'est mon affaire, c'est pour la vie.
Et tu sais comment tout organiser sa journée, tu connais ses besoins, etc. Mais peut-être qu'on arrive mieux à discerner les besoins de notre bébé, surtout au tout début. Mais notre mari peut reconnaître aussi nos besoins et quelquefois. Ça peut venir de lui, de dire bah tu sais, peut-être que un tel peut venir nous aider, et puis tout de suite on va le prendre sur la défensive, comme vous l'avez
on
dit,
mais compétent.
C'est de se dire bah peut-être que oui, mon mari il a pas pensé tout de suite aux besoins du bébé, mais il a pensé aux besoins de la maman et aux besoins de sa femme, et de savoir écouter, de savoir reconnaître que ça peut être sage, et qu'il a peut-être pas le même rapport avec l'enfant, la même façon de faire, que oui, il a pas de montée de lait, donc il peut pas comprendre. Non, il y a des choses qu'il peut pas comprendre, c'est certain. Mais on a autant père que mère, on a un rôle à jouer dans l'éducation. Et quelquefois, on veut exclure le papa. Et puis, on veut juste lui donner des choses. C'est genre, de temps en temps, on lui jette ça à la figure. Mais c'est vraiment d'avoir d'être ensemble dans cette aventure, ensemble dans ce qu'on est bon à faire. Et vraiment, je crois que le papa est un élément clé pour déceler le besoin de la maman, parce qu'on a peut-être tendance à s'oublier, ça peut être nocif pour le couple. Et en fait, le mari est comme une alerte à ce moment-là pour dire « Hey, le couple existe encore. » Et lui dit « C'est pas parce que... pendant une heure, on va le laisser, pas tout seul, mais on va le laisser à ta maman ou avec ma maman, que t'es une mère indigne.
Ouais. Exactement.
Et ça, c'est vraiment, je crois, un des rôles, en tout cas, que le mari peut avoir, mais qu'on ne peut ne pas respecter à ce moment-là, parce qu'on est tellement focalisé sur les besoins du bébé.
Exactement. En fait, c'est vraiment ça le point, c'est que parfois on veut tout faire, mais tu peux demander de l'aide à une cousine, tu peux demander de l'aide à une sœur, et pour justement aussi t'investir dans ton mari. Mm-hmm. Parce que comme tu l'as dit, le couple existe encore, et on peut pas le délaisser à cause de l'arrivée d'un bébé, ce qui est très tentant de faire et très dangereux.
Mm-hmm. Donc, mais d'ici la fin de la semaine, vendredi, tu vas nous en parler, comment maintenir une vie de couple passionné, même avec des enfants. Tu vas nous expliquer comment on peut faire ça. Mais demain, on va parler de comment prendre soin de nous en tant que femme, comment ne pas tomber dans la négligence, etc. Parce qu'on est fatigué, parce qu'on a tellement de choses à faire. Tu vas nous expliquer tout ça demain, Nifa, comment on peut prendre soin de nous. Exactement. Alors, on en parle demain dans Parole de Femme.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes sur emcitv.com.